Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation de cette émission mise en onde par Georges Léonard Sagno, cassiste Sims Lumami et puis à la console, on a Suleiman Tara Ouale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. La polémique née de ses propos sur Charlottesville ne s'éteint pas. Donald Trump reste sous pression jusque dans son camp pour son ambiguïté à l'égard de groupuscules d'extrême droite. La mère de Heather Heyer, la femme de 32 ans, tuée par un sympathisant néo-nazi le 12 août à Charlottesville, en Virginie, s'en est prise vendredi au président américain qui avait assuré vouloir lui présenter personnellement ses condoléances. Lors de sa conférence de presse mouvementée de mardi, le président des États-Unis, tout en condamnant les suprémacistes blancs et les néo-nazis qui avaient organisé une manifestation à Charlottesville pour s'opposer au retrait d'une statue confédérée, a provoqué une vive controverse en assurant qu'il y avait des torts, mais aussi des gens très bien des deux côtés. Depuis lors, le débat sur la race est revenu au devant de la scène. Alors, question, que pensez-vous de la question raciale aux États-Unis à la lumière des incidents de Charlottesville où des suprémacistes blancs ont eu des accrochages avec des militants antiracistes, faisant un mort et des blessés? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et numéros sur Facebook ou appelez-nous en direct au 001-202-205-2633. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur www.voafrique.com. Pour nous accompagner au cours de cette émission, nous aurons, il me semble qu'on a déjà en ligne le docteur Marilyn Sefocle. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être là avec nous. Alors, on va commencer avec vous. On a d'autres invités qui vont nous rejoindre au courant de l'émission. Déjà, quel est le commentaire que vous faites de cette actualité, de ces incidents de Charlottesville?
Alors, ces incidents, évidemment, s'inscrivent dans une histoire des États-Unis qui a souvent renié son passé, qui n'a pas toujours assumé son passé. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut déjà enseigner l'histoire aux enfants, une histoire qui soit vraiment complète. Alors qu'on remarque dans les écoles qu'on met l'accent sur une histoire qui est plutôt triomphaliste, donc qui fait l'apologie, si vous voulez, des accomplissements de la, des personnalités de la race blanche, mais qui ne met pas du tout en exergue ce que les Noirs ont pu accomplir dans ce pays. Or, quand on connaît la vérité, on sait que les Noirs, les Native Americans, les Amérindiens, toutes les composantes des États-Unis ont toutes participé à la construction du pays.
Mais voilà.
On a l'impression qu'il s'agit simplement d'une histoire blanche.
En tout cas, on va développer ça, docteur Sefocle, tout à l'heure. On va accueillir nos autres invités. Le professeur Jean-Germain Gros, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes de l'université de Saint-Louis, dans le Missouri. C'est l'état où tout cela s'est passé. Comment, quel est le climat qui prévaut là-bas en ce moment?
Bon, pour le moment, tout semble être calme. Comme vous le connaissez, il y a 3 ans, Ferguson était vraiment un point chaud de l'actualité. Maintenant, il y a une certaine accalmie, mais quand même, nous regardons ce qui passe à Charlottesville et à Washington DC, bien sûr.
Voilà. Vous restez avec nous. On va accueillir le professeur Emilio Viano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des sciences politiques à American University. La même question que je posais tout à l'heure au docteur Sefocle. Quel commentaire vous faites de ces incidents de Charlottesville?
Je pense qu'on pouvait bien l'attendre en raison de toute la campagne pour l'élection présidentielle menée par Trump et les déclarations après sa présidence, c'est-à-dire une politique, une campagne des discours de division dans le pays, parce que sa base, la base de sa victoire, la base éventuelle de sa réélection, n'est pas tout le pays, n'est pas tous les Américains, mais les plus conservateurs, les plus racistes, les plus blancs dans le pays. Et ne me surprend pas que ça passe ça en tête.
Alors, vous parlez du président Trump, docteur Sefocle. Lors des incidents de Charlottesville, on a reproché à Donald Trump de n'avoir pas dénoncé dans sa première déclaration l'attitude des suprémacistes. Est-ce qu'il ne fallait pas donner un peu plus de temps au président de savoir ce qu'il va dire?
C'est tout à fait juste de lui reprocher de ne pas avoir réagi tout de suite, d'une part, et d'autre part, quand il a réagi, d'avoir réagi de façon si négative. Parce qu'on ne peut pas mettre au même plan, du point de vue moralité, des suprémacistes, d'une part, et des personnes, et des suprémacistes donc, qui véhiculent un message de haine, et des personnes qui... par opposition, justement, véhicule un message d'amour. Donc, il a mis tout ce monde-là sur le même pied d'égalité. Et ça, ça a beaucoup heurté la plupart, la grande majorité des Américains, quelle que soit leur couleur.
Alors, Jean-Germain Gros, qui sont ces suprémacistes et néo-nazis, en fait?
Bon, ces suprémacistes néo-nazis sont généralement des jeunes hommes blancs, qui se sentent un peu, disons, marginalisés, pour ne pas dire menacés. Parce que vous savez qu'en ce moment, nous vivons une certaine transition démographique aux États-Unis. Eh bien, ces jeunes gens pensent que vraiment, si sous peu, les Blancs ne seront plus majoritaires. Ensuite, il y a le phénomène de la mondialisation qui a accéléré une perte d'emplois dans certaines industries. Donc, ils se sentent doublement menacés par ces phénomènes économiques et démographiques. Et malheureusement, M. Trump, quand il faisait campagne, n'est-ce pas, a su jouer sur les craintes de ces gens. Au lieu de les rassurer, au lieu de faire des propositions, il a vraiment essayé de diviser la société entre blancs et noirs et entre différents groupes, les Mexicains et consorts.
Voilà.
Donc, au lieu de rallier la société, il a plutôt exacerbé les divisions sociales.
D'accord. On parlera de tout cela tout à l'heure. Professeur Emilio Viano, il s'est dit que près de 5% de la population américaine partagerait les idées des suprémacistes, à savoir notamment la supériorité de l'homme blanc sur les autres humains et notamment la nostalgie de l'esclavagisme. Que vous inspire un tel pourcentage? Et puis, est-ce que, comme le disait tout à l'heure Jean-Germain Gros, est-ce que les Blancs sont menacés en ce moment aux États-Unis?
Oui, je ne sais pas sur quelle base on dit 5%, mais enfin, il y a bien des mondes, particulièrement au sud des États-Unis, mais pas seulement au sud des États-Unis, qui maintiennent cette idée que les Blancs constituent une race supérieure et même que selon eux, les Blancs seraient condamnés à l'extinction face à l'augmentation des personnes de couleur dans la société américaine. Et leur but, alors, est le maintien de leurs privilèges aux États-Unis au détriment des autres. et de créer même un État blanc. Et il parle d'un devoir de sécuriser l'existence de notre peuple et un futur pour les enfants blancs. Ça s'inspire aussi du racisme scientifique, qui est une pseudo-science qui remonte naturellement au 19e siècle, quand on a commencé à parler de différences entre les races qui étaient avec des raisons scientifiques, même en expliquant la criminalité, par exemple, le succès dans les études, etc., etc., et qui a dominé assez la scène même académique aux États-Unis, en Europe, à la fin du siècle XIX, et même pendant les premiers 30 ans du siècle passé, qui a inspiré enfin le mouvement pour la pureté de la race en Allemagne, par Hitler, mais aussi aux États-Unis, beaucoup de stérilisations sont permis et forcées, et le que s'appelle eugénique, c'est-à-dire créer une race meilleure et d'éliminer ceux qui n'appartiennent pas pour des raisons de cet effet, et d'effet organique ou d'effet mentaux ou tous les deux.
Voilà, vous restez avec nous, on va prendre un auditeur au téléphone, ils sont nombreux à nous écouter sur le continent. Tierno Diallo, bonsoir. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces incidents, de ces débats sur la race, de cette question de race aux États-Unis?
Oui. Vous m'avez amené une question très importante là.
On a malheureusement du mal à vous suivre. On va prendre lui. Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. En tout cas, nous sommes intéressés par ce thème. Nous allons d'abord saluer à l'intention de tous les auditeurs.
En quelques secondes, votre réaction.
Donc, nous remercions en tout cas tous les auditeurs. Et nous allons pouvoir manifester cela en souhaitant en tout cas en montrant que le temps de vie, l'attitude de deux excellences, à savoir le jésuite père et le jésuite junior, qui ont eu le temps de pouvoir dénoncer en tout cas cet intent fort, puisque aujourd'hui on ne peut plus parler de cette histoire, ça doit rester en tout cas dans les oubliettes. Mais nous sommes étonnés que certains dirigeants du monde dit civilisé n'ont pas eu le temps de pouvoir contester, que les autres se sont vraiment donné le temps en retard pour pouvoir
voilà. Merci beaucoup, lui, pour cette réaction. Je vais revenir sur le docteur Sefocle. En tout cas, les incidents de Charlottesville sont nés parce que les suprématistes blancs et les néo-nazis avaient organisé une manifestation à Charlottesville pour s'opposer au retrait d'une statue confédérée. Qu'est-ce que vous pensez de la présence des statues confédérées dans les villes ici aux États-Unis, surtout lorsqu'on sait que dans certaines villes comme Baltimore, on a décidé de s'en débarrasser?
Oui, il faut se débarrasser de ces statues est important. Les mettre peut-être dans un musée qui expliquerait l'histoire des États-Unis, c'est peut-être là où elles devraient être, ces statues. Il y a plus de 700 monuments aux États-Unis. 700, c'est énorme. 700 monuments dédiés aux confédérés. Et c'est une abomination. Ce serait, si vous voulez, en Europe, l'équivalent d'avoir des statues, 700 statues d'Hitler dans toute une partie de l'Europe qui couvrirait à peu près les États-Unis. En Europe, on trouverait ça une vraie abomination. Aux États-Unis, je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de véritable réconciliation nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méconnaissance de l'histoire. Dans l'histoire américaine, on met souvent l'accent sur le triomphalisme, c'est-à-dire sur l'immigré européen qui arrive et par son ingéniosité arrive à avoir un certain succès. matériellement aux États-Unis. Mais on ne met pas assez l'accent sur les autres Américains, les Noirs américains, par exemple, les inventeurs Noirs américains. Et Dieu seul sait s'il y en a.
Il y a effectivement beaucoup d'inventeurs. Mais je vais vous relancer, docteur Sefok. Donald Trump estime que débarrasser, vous parliez de l'histoire tout à l'heure, Donald Trump estime que débarrasser les villes des statuts confédérés revient à mettre en pièce l'histoire et la culture américaine.
Non, parce que ériger une statue, c'est en général à la gloire d'un personnage. C'est pour justement récompenser ce personnage, c'est pour, si vous voulez, l'aduler, lui rendre hommage. Or, rendre hommage aux confédérés, ça n'a pas sa place aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les confédérés étaient contre l'Union. Or, maintenant, nous vivons dans l'Union. Et les confédérés représentent justement l'anti-américanisme, représentent l'esclavage, représentent tout ce que l'Amérique a de honteux dans son passé, parce qu'il y a une partie du passé américain qui est honteux, qui est lié à l'esclavage, qui est lié au massacre des Amérindiens, et cet aspect honteux de l'histoire ne devrait pas être
affiché et
être simplement éliminé.
Éliminé, voilà. Professeur Jean-Germain Gros, pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette affaire ressurgit, cette affaire est de statut des confédérés? On sait qu'il y a déjà eu des épisodes avec les drapeaux.
Bon, je dirais tout simplement à cause de Donald Trump. Les néo-nazis, les nationalistes blancs et d'autres groupes racistes, eh bien, ils ont maintenant le sentiment qu'ils ont un allié à la Maison-Blanche. Donc, maintenant, ils se sentent beaucoup plus à l'aise à propager leur idéologie. Donc, je dirais que ce qui se passe autour des statuts, il y a un lien direct avec le résultat des élections de novembre 2016. Maintenant, vraiment, ils ont un allié à la Maison-Blanche. Je dirais que c'est là la raison principale.
Voilà. Professeur Emilio Viano, il s'est dit que la victoire de Donald Trump a galvanisé les suprémacistes. Est-ce que c'est votre avis?
Oui, naturellement, parce que Donald Trump directement a travaillé avec eux pour sa victoire et il pense à sa réélection dans la même façon. C'est ça qui a créé en partie cette crise aux États-Unis où on parle de alt-right, les suprémacistes, les KKK, on parle des néo-nazis américains, on parle de Robert Lee et maintenant aussi des alt-left. C'est-à-dire que c'est toute une discussion basée sur la race et sur l'opinion conservatrice, où conservateur signifie l'appui de l'esclavage, l'appui de la supériorité de la race blanche. C'est-à-dire que Trump a gagné avec le vote d'une partie des Américains. Nous savons qu'il a perdu l'élection populaire. Si c'était une élection directe, comme dans plusieurs des pays, il n'aurait pas gagné. Et alors, il continue à faire plaisir à sa base. Même les décisions du président ne sont pas pour tout le peuple américain. Ils sont pour maintenir de bonnes relations avec ceux qui ont voté pour lui. Et ça, c'est sa priorité. La priorité n'est pas les Américains. C'est la base qui lui a donné la victoire.
Mais justement, est-ce qu'il ne devrait pas tenir ce contrat de confiance avec cette base-là?
Naturellement, il pense que c'est très important de le faire, premièrement parce que c'est seulement ceux qui l'appuient. Il y a beaucoup de critiques de l'autre côté, n'est-ce pas?
Voilà.
Et alors, c'est naturel qu'il pense à eux. Et après, il pense beaucoup à sa réélection. Vous savez que c'est le premier président aux États-Unis que le jour quand il a pris son office, il a aussi déclaré officiellement, avec les papiers nécessaires, ce désir de réélection.
Voilà. Vous restez avec nous, chers invités. On va prendre quelques auditeurs. On commence par Steve Boko. Bonsoir. En quelques secondes, votre réaction.
Oui, bonsoir, monsieur. Moi, c'est Steve Boko depuis la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que même si tous les pays parlent du racisme, l'Amérique ne doit pas parler du racisme. Parce que l'Amérique même est ennemie des choses, du racisme.
Voilà. Merci pour cette réaction. On va prendre Raymond Lushima. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
En quelques mots, votre réaction.
Oui. Concernant le racisme, les États-Unis se considèrent les pays les plus démocratiquement avancés, mais par rapport au racisme, je trouve qu'ils sont au bas de l'échelle. Ils prônent l'égalité des individus, mais ils sont les premiers à appeler le racisme, les Ku Klux Klan et la...
Voilà.
Donc, je ne suis pas de cet avis du fait. C'était avec l'électorat de Trump.
Merci Raymond pour votre contribution. On va prendre une dernière au téléphone. Christian Diarabi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, en quelques secondes, votre réaction.
Oui, il faudrait que les États-Unis puissent rendre justice contre le racisme.
Voilà. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table avec nos invités. Docteur Sefocle, vous, le mot de la fin, comment résoudre cette question et ramener l'union et la paix dans le pays?
Alors, je dirais que l'élection de Donald Trump est une anomalie. Ça a été vraiment une grosse erreur de la part aux États-Unis. Et il faut absolument aller de l'avant. Mais il faut voir...
Oui, allez-y, terminez votre propos.
C'est-à-dire quelqu'un dont le père a été arrêté, son père Fred Trump a été arrêté lors d'un rallye du Ku Klux Klan. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie... justement de ce rallye du Ku Klux Klan, son père, Donald Trump, le père de Donald Trump, et Donald Trump lui-même par la suite, ne voulait pas louer à des Noirs dans son...
Alors, en quelques mots, docteur Sefocle, comment résoudre le problème? En quelques mots seulement, on est pris par le temps.
Il faut enseigner aux Américains l'histoire de leur pays sans avoir peur, justement,
merci.
De ce sentiment de culpabilité.
Merci pour votre contribution. Désolé de vous couper. Jean-Germain Gros, en quelques mots, comment régler cette affaire? Comment ramener l'union et la paix entre les Américains?
En quelques mots, il nous faut un débat franc, un débat inclusif, et un débat qui aboutira à des solutions permanentes. Donc, c'est là. Nous avons besoin de continuer cette conversation au niveau national.
Merci beaucoup. Professeur Emilio Viano, vous?
Oui, je pense que c'est un grand problème. Un problème qui dure depuis des siècles. Il faudra travailler très dur, particulièrement en changeant la culture organisationnelle. Par exemple, au sein des organes policiers, nous savons que tous les années, les policiers aux États-Unis tuent plus de 1000 personnes, la majorité des Noirs. Et après, il y en a clairement tout le racisme qui trouve ses expressions dans la même façon. Et il sera très difficile de le faire s'il n'y a pas un effort très, très, très grand de part du gouvernement central. Et malheureusement, on voit qu'on est en train de marcher dans la direction contraire.
Merci au professeur Jean-Germain Gros, merci au docteur Sefocle et à vous Emilio Viano. C'est la fin de cette émission de l'Amérique et vous qui était mise en onde par Georges Léonard Sagno, qu'assistait Sims Lumami qui fête aujourd'hui son anniversaire. Happy birthday to you, comme on dit ici. Je vous laisse en compagnie des programmes de VO Afrique juste derrière moi. Vous retrouverez Anastasie Tudiech pour les informations. Bonsoir.